Bienvenue, voici donc l'accent des autres, les grandes lignes de l'actualité francophone de la semaine avec les médias francophones publics, RFI, France Inter, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse et la RTBF. Et d'abord ce chiffre cette semaine, une femme sur cinq victime de viol en Belgique, c'est en tout cas, Jacques Remers, ce que révèle un sondage.
Oui, et c'est une enquête réalisée pour Amnesty International et SOS Viol, un chiffre interpellant, mais ce n'est pas le seul. Le responsable d'Amnesty Belgique parle même d'une culture du viol.
En Afrique, on retiendra cette semaine cette décision du président ivoirien. Il ne briguera pas un troisième mandat, militulé.
Oui, Alassane Ouattara met fin au suspense, de quoi décrisper et ouvrir la scène politique avant la présidentielle d'octobre.
En Suisse, le procureur général de la Confédération va perdre 8% de son salaire, Pierre-Anne Chauffat.
Une sanction pour Michael Laubert qui a menti, agi de manière déloyale et entravé l'enquête de son autorité de surveillance.
Au Canada, Manon Glomaski, la crise déclenchée par des manifestations de nations autochtones semble toucher à sa fin.
Les dernières barricades, celles des Mohawks et des Mi'kmaq au Québec, ont été démantelées, mais la solidarité avec la nation Wet'suwet'en de Colombie-Britannique demeure.
Enfin, 2020, année de Gaulle en France. Éric Delvaux, plusieurs anniversaires prévus, mais ça commence avec un film sorti cette semaine.
Un film sobrement intitulé « De Gaulle » avec Lambert Wilson dans le rôle-titre.
Près d'une personne sur deux a déjà été victime d'une forme de violence sexuelle en Belgique. C'est l'un des constats, Jacques, d'un sondage réalisé pour le compte d'Amnesty International et de SOS Viol, divulgué un peu avant la Journée internationale des droits des femmes ce 8 mars.
Oui, ce sondage révèle que les femmes et les jeunes sont particulièrement visés par les violences sexuelles, puisqu'un jeune sur quatre a été victime d'un viol et qu'une femme sur cinq a subi des relations sexuelles forcées par le partenaire, des chiffres particulièrement interpellants, édifiants, commentés par Philippe Hensmans, directeur d'Amnesty International Belgique.
Alors, ces chiffres sont tout à fait impressionnants et ça montre que la Belgique n'est pas capable de protéger ses citoyennes et ses citoyens. Parce que si on arrive à des résultats pareils, cela montre qu'il y a encore d'énormes efforts qui doivent être réalisés. Et c'est aussi probablement le résultat d'une culture du viol aujourd'hui. Le viol n'est pas considéré suffisamment comme étant quelque chose d'interdit.
Une culture du viol, les mots sont forts. Amnesty demande dès lors que la sensibilisation auprès des jeunes soit accentuée. Un tiers des moins de 26 ans pense en effet qu'il est normal d'insister pour avoir des rapports sexuels. Un tiers des jeunes pense aussi que si un non n'est pas explicite, ce n'est pas un viol. 2300 personnes ont été interrogées dans le cadre de ce sondage.
Voilà pour ce sondage donc d'Amnesty Belgique. En Suisse aussi, Pierre-Anne, Amnesty dénonce la face cachée des violences sexuelles.
Oui, une femme sur cinq de moins de 16 ans a déjà subi des actes sexuels non consentis. La moitié d'entre elles n'osent pas en parler et moins d'une sur 10 a porté plainte. Voilà le résultat du sondage pour la Suisse publié en mai dernier par Amnesty. Et puis en novembre, une pétition a été remise aux autorités fédérales. Son but, renforcer le code pénal pour que les relations sexuelles non consenties soient reconnues comme des viols. La définition en Suisse est en effet restrictive. Il doit y avoir eu recours à des moyens de coercition.
Voilà pour la Suisse. Et puis en France, Eric, une grande enquête vient aussi d'être publiée sur la pression sexuelle que subissent les femmes.
Oui, et ça fait froid dans le dos, puisque 90% des Françaises interrogées disent avoir déjà subi une pression pour un rapport sexuel, et parfois à plusieurs reprises. Un pourcentage tiré de la grande enquête sur le consentement, enquête commandée par le collectif Nous Toutes, d'où il ressort aussi qu'une femme sur deux a déjà subi des violences s'apparentant à des viols de la part de son partenaire.
Oui, on notera encore que la Belgique souhaite ouvrir de nouveaux centres pour soutenir et accompagner les victimes de violences sexuelles. Il en existe trois. L'objectif, c'est d'arriver à 10 sur le territoire belge. Alors au Québec aussi, Manon, les maisons qui s'occupent de femmes victimes de violences espèrent du financement supplémentaire dans le budget qui sera présenté la semaine prochaine.
Oui, depuis plusieurs années, leurs budgets ont été indexés à l'inflation, mais n'ont pas augmenté. Et pourtant, la demande, elle, est en croissance. Par exemple, dans une région du Québec l'an dernier, on estime que pour chaque femme hébergée, 3 ont été refusées.
L'accent des autres.
L'accent des autres sur le continent africain à présent avec vous, Amélie. Le président de la Côte d'Ivoire a donc créé la surprise cette semaine avec cette annonce.
Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
Et oui, cette déclaration, Olivier, met fin à des mois de spéculation en Côte d'Ivoire et vous entendez ces acclamations. Ce sont les parlementaires réunis en congrès à Yamoussoukro jeudi. Alassane Ouattara a fait devant eux son discours à la nation. Le chef de l'État, âgé de 78 ans, termine son second mandat cette année. Il a déclaré vouloir transférer le pouvoir à la jeune génération.
Oui, ces manifestations, une annonce importante. Amélie, pour quelles raisons?
Parce que ces derniers mois, le président Ouattara soufflait le chaud et le froid au sujet de ses intentions. Parce que la Côte d'Ivoire, vous en souvenez, a connu une crise post-électorale meurtrière en 2010 et 2011, après le second tour entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, justement. Le spectre des tensions politiques et des violences planait donc sur le pays à l'approche de la présidentielle d'octobre. En clarifiant les choses, Alassane Ouattara laisse la place à une nouvelle génération dans son camp et envoie aussi un message fort à ses opposants, Laurent Gbagbo, 74 ans, Henri Konan Bédié, 85 ans. Et en Guinée voisine, où l'opposition se mobilise depuis l'automne contre une modification de la constitution qui pourrait permettre à Alpha Condé de briguer un troisième mandat, cette annonce fait écho aux préoccupations de la société civile.
Voilà donc pour la situation en Côte d'Ivoire. En Suisse, à présent, le procureur général de la Confédération a donc été sanctionné. Pierron, on lui reproche en fait d'avoir manqué à son devoir dans le cadre de sa fonction.
Oui, le rapport de l'autorité de surveillance est sévère. Il rappelle d'abord des faits connus. Dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de corruption au sein de la FIFA, le procureur Michael Lauber a mené des entretiens secrets et non protocolés avec le patron de la puissante organisation sportive, Gianni Infantino. Un vice de procédure qui a conduit à la récusation du procureur sur cette affaire. Et puis on lui reproche aussi d'avoir menti à plusieurs reprises, d'avoir agi de manière déloyale et d'avoir enfin entravé l'enquête de l'autorité de surveillance.
Oui, et malgré ça, Pierron, le procureur est toujours en place.
Oui, c'est vrai, Olivier, la sanction paraît légère, une réduction de salaire de 8% pendant un an, mais seul le Parlement qu'il a élu pourrait le révoquer et le procureur peut encore faire recours contre la décision de l'autorité de surveillance. Les voix s'élèvent toutefois déjà au Parlement pour appeler à sa démission afin de limiter les dégâts.
Oui, et on imagine que c'est plutôt mauvais en termes d'image pour les institutions.
Évidemment, d'autant que l'efficacité de la lutte contre la criminalité économique est essentielle pour la Suisse. Marc Pitt, pénaliste et expert anticorruption, en est convaincu.
La conséquence est grave pour un pays comme la Suisse, une place économique essentielle. C'est nécessaire d'avoir des institutions fortes et ce qu'on voit ici est assez pénible, franchement.
Et pendant ce temps, les enquêtes sur la FIFA sont menacées par la prescription.
L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Direction le Canada, les blocages de voies ferrées, on vous en a parlé. Blocages par des groupes autochtones dans plusieurs provinces canadiennes sont terminés, Manon, mais il aura fallu beaucoup de patience.
Peut-être vous souvenez-vous que les barricades, notamment de la nation Mohawk au Québec, avaient été érigées début février en appui à des autochtones de Colombie-Britannique, les Wet'suwet'en, dont certains chefs héréditaires s'opposent au tracé d'un gazoduc qui doit traverser leur territoire. Eh bien, ces chefs héréditaires sont en voie de conclure une entente avec le gouvernement du Canada et de la province. Et donc, les barricades n'avaient plus de raison d'être et le trafic ferroviaire est presque revenu à la normale.
Oui, cela dit, ce mouvement d'opposition à un gazoduc a révélé qu'il y a d'importantes questions de fond à régler avec les Premières Nations du Canada.
En particulier, la question de la gouvernance. Quel pouvoir ont les chefs traditionnels alors que le gouvernement canadien a créé des conseils de bande élus? C'est en fait toute la loi sur les Indiens de 1876, modernisée il y a 35 ans, qui est remise en question.
On va se quitter cette semaine en France, où l'on s'apprête donc à célébrer l'année de Gaulle, des anniversaires et des commémorations au pluriel, Eric.
Il y aura d'abord le 130e anniversaire de sa naissance, également le 50e de sa mort et surtout les 80 ans de l'appel du 18 juin. C'est d'ailleurs ce 18 juin le thème du film qui est sorti en France cette semaine, Lambert Wilson dans le rôle de Gaulle. Non pas toute la vie de Gaulle, mais les deux mois qui vont le conduire jusqu'à Londres pour son appel à une France libre sur les ondes de la BBC. Et le film raconte de Gaulle aussi et son opposition au maréchal Pétain.
Il est l'heure, sans honte et sans déshonneur, de reconnaître notre défaite.
Et que proposez-vous, monsieur le maréchal ?
On doit s'entendre avec l'Allemagne et rebâtir la France sur des bases nouvelles.
Monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser les Allemands entrer dans Paris sans la moindre opposition.
Mais nous nous battons, vous le savez bien, et nous perdons.
En langage militaire, ça s'appelle une désertion.
Je ne vous permets pas, de Gaulle !
Quoi que nous fassions, cette guerre sera mondiale. Décidons de continuer le combat ailleurs.
Voilà pour le De Gaulle historique. Il y a aussi dans ce film un De Gaulle plus intime, un De Gaulle attendri par sa fille Anne, trisomique. Un De Gaulle intime également avec sa femme Yvonne dans une histoire d'amour. Et oui, une histoire d'amour de De Gaulle que l'on aborde peu avec le personnage. La figure est d'ailleurs si impressionnante que c'est d'ailleurs la première fois qu'un film est réalisé au cinéma sur De Gaulle, si l'on excepte quelques téléfilms.
Alors aujourd'hui, Eric, est-ce que la classe politique française se revendique de Gaulle encore ?
Oui, il reste une figure tutélaire de la classe politique française, et pas seulement à droite ou au centre. Chez les socialistes également, faut-il rappeler que l'ancien président socialiste, François Mitterrand, avait fini par convertir ses troupes aux institutions gaulliennes qu'il avait pourtant largement vilipendées auparavant. Celui qui se réclamait le plus du général était certainement l'ancien président Jacques Chirac. Quant à Emmanuel Macron, qui présidera cette année les différentes cérémonies, Emmanuel Macron cherchera très certainement à s'approprier le képi du général. Emmanuel Macron, qui a toujours vanté une France et de droite et de gauche, pourrait bien refaire sienne la phrase de De Gaulle, qui disait avoir une certaine idée de la France. De Gaulle, le rassembleur. Ce sera donc, sans nul doute, le message que le président Macron va mettre en avant, alors que la France est aujourd'hui divisée, notamment par la réforme des retraites.
Voilà, 2020, année De Gaulle en France, donc, et on se souviendra encore avant de se quitter qu'au Québec, Manon, le général a marqué l'histoire en lançant cette célèbre phrase. C'était en 1967.
Vive Montréal ! Vive le Québec ! Vive le Québec libre !
C'était à la fin de son discours donné d'un balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal, une phrase comprise comme une évocation de ses « Vive la France libre » de juin 1940 et un encouragement au désir d'émancipation qui commençait à prendre forme au Québec. Je vous ferai pas toute l'histoire qui a suivi, mais convenons que l'événement d'il y a bientôt 53 ans a fait connaître le Québec et sa situation politique à travers le monde.
Merci beaucoup Manon Globinski pour Radio-Canada et merci à tous. C'était l'essentiel de l'actualité francophone avec Radio-Canada, avec la radio-télévision suisse, RFI, France Inter et la RTBF. L'accent des autres revient comme d'habitude la semaine prochaine à la même heure.